Bien, bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler ce soir du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, chapitre extrêmement important avec en son centre ce qu'il est convenu d'appeler le discours sur le pain de vie. Je n'ai pas pu le faire la dernière fois puisque j'étais absent, donc je ne pouvais pas, en faisant le cours d'aujourd'hui, sauter directement au bon pasteur comme c'était prévu. Donc il y aura un décalage sur les séances suivantes. Le bon pasteur, ça sera pour la séance du mois de mai. Parce que, s'agissant de l'évangile de Saint Jean, on ne peut pas passer au-dessus, si je puis me permettre, au-dessus de ce chapitre 6 qui est si important. Alors, d'abord, c'est un long chapitre, il a 71 versets, et on peut dire qu'il marque une étape tout à fait significative, si ce n'est décisive, dans la révélation du mystère du Christ. Vous savez que ce mystère se dévoile progressivement à travers un certain nombre de signes, et les signes sont des manifestations de la personne du Christ, du mystère de la personne du Christ, c'est-à-dire que au travers des dons que manifestent les signes, il faut aller au donateur, ne pas s'arrêter à ce qui est accompli dans le signe, mais à la signification de ce signe et à la personne qui l'accomplit et au mystère de cette personne, qui n'est autre que la personne du Christ, bien sûr. Alors, dans ce chapitre, le Seigneur se présente lui-même comme le pain descendu du ciel. Et évidemment, ce dévoilement de son identité, le Verbe qui est fait chair du prologue, là, le Verbe se fait pain, le Verbe se fait homme dans le prologue, et ici, le Verbe éternel qui s'est fait homme, il est le pain descendu du ciel. Donc, c'est un chapitre qui va provoquer un certain nombre de réactions des interlocuteurs destinataires et bénéficiaires de ce discours. Et ça va entraîner la nécessité d'un choix parmi ces interlocuteurs. Choix dont il est question beaucoup plus tard, à la fin du chapitre, à partir du verset 60, et nous savons que, puisque Saint Jean nous le dit, beaucoup rejetteront la parole du Maître à cette occasion. Mais n'allons pas trop vite. Il est remarquable que nous sommes dans un contexte de révélation qui se passe entre la fête de Pâques et qui est donné à la synagogue de Capharnaüm. Au verset 4, il nous est dit que ce chapitre commence par la scène de la multiplication des pains, qui a lieu, nous dit le verset 4, peu avant la Pâque, qui est la fête des Juifs, et que le discours qui est finalement l'interprétation de ce signe, de ces deux signes accomplis. Le quatrième signe de l'évangile de Jean, c'est donc la multiplication des pains. L'autre signe, c'est la marche sur la mer. Et le discours, c'est l'interprétation de ces signes. Cette interprétation, le Christ, d'abord dans le cadre d'un dialogue et ensuite par sa parole seule, cette interprétation va être donnée à la synagogue de Capharnaüm. C'est au verset 59 qu'il est précisé que tout cela se passait à la synagogue de Capharnaüm. Alors, il y a plusieurs manières d'entrer dans la structure de ce très long chapitre qui, je le rappelle, a 71 versets. On pourrait d'abord, dans une première lecture, voir trois parties. Des versets 1 à 15, donc le récit de la multiplication des pains. Du verset 16 au verset 21, la marche sur la mer. Et ensuite du verset 22 au verset à la fin donc du chapitre, verset 71, tout le grand discours sur le pain de vie et avec sa finale sur la question du choix du choix de foi par rapport à la personne du Christ. Ce premier survol permet de voir une chose qui est très importante, c'est qu'il y a une très grande unité dans ce chapitre. Il y a deux signes qui sont accomplis par le maître, multiplication des pains et marche sur la mer. À la suite, il y a discours sur le pain de vie, mais tout ça se tient. J'ai lu, parce qu'évidemment, quand on prépare ces leçons, on lit beaucoup de choses. J'ai lu, sous la plume de certains exégètes de la première moitié du XXe siècle, notamment, que certains considéraient qu'il y avait eu un assemblage qu'ils jugeaient plus ou moins hétéroclite. Et je crois que c'est complètement une erreur. Il y a une unité profonde dans ce chapitre. Unité qui fait qu'on ne peut pas séparer les signes du discours qui suit, puisque le discours va interpréter ces signes et permettre de dévoiler le mystère du Christ. Si nous allons plus loin dans une analyse plus fine de la structure, on peut, avec plusieurs exégètes de l'évangile de Saint Jean, le découper en 5 parties, ce chapitre. Donc, la première, c'est du verset 1 à 15, puisque là, ça concerne uniquement le quatrième signe qui est la multiplication des pains. La deuxième partie, c'est la marche sur la mer, donc 16-21, ça ne change pas. Mais après, on peut entrer plus finement dans le long discours sur le pain de vie, pardon, en proposant cette division suivante, 22-59, 60-65 et 66-71. 22-59, c'est le discours proprement dit, le discours à la synagogue de Capharnaüm. Avec plusieurs thèmes qui sont répétés, il y a une redondance pour donner place à de nouveaux développements, comme par exemple obtenir la nourriture, opposition d'abord de la nourriture matérielle terrestre et de la nourriture spirituelle céleste. Cette opposition des deux types de nourriture permet d'introduire le thème de la nourriture qui demeure en vie éternelle. Ce verbe « demeurer » est extrêmement important dans ce contexte. L'appel à la foi dans celui que Dieu a envoyé, croire en celui que Dieu a envoyé, donc Jésus, le pain de vie, pain descendu du ciel, dont la mendication donne la vie éternelle. Le thème, à partir des versets dans la fin du discours, sur la mendication de la chair qui est nourriture et sur le sang qui est breuvage. Là, on s'interroge sur le mystère eucharistique, du moins sur la préparation au mystère eucharistique. Nous savons que dans l'Évangile, dans les synoptiques, le mystère eucharistique est lié au dernier repas, le repas que Jésus célèbre lors de la Pâque avec ses disciples. Au 13e chapitre de Saint Jean, il est fait allusion au dernier repas du Maître avec ses disciples, mais l'évangile de Saint Jean ne contient pas le récit de la scène. Non. Alors, beaucoup s'en sont étonnés, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'en étonner, dans la mesure où Saint Jean, c'est le quatrième évangile, c'est le plus tardif des quatre, mais Saint Jean ne cherche pas à répéter nécessairement tous les récits qui figurent dans les synoptiques. Il les connaît, d'évidence il les connaît, mais il éclaire le mystère de la personne du Christ, le Verbe incarné, il l'éclaire sous différents angles par rapport aux évangiles synoptiques, et il est parfaitement au courant de l'institution du mystère eucharistique lors du dernier repas, celui de la Pâque du Christ avec avant la Pâque, donc celui que célèbre le Seigneur avec ses disciples, pour la bonne raison que ça fait partie de la vie des Églises depuis les apôtres, instituée par le Seigneur lui-même, faites ceci en mémorial de moi, et saint Paul le dit, le Seigneur m'a appris ceci, et c'est pour ça que je vous le transmets, la nuit où il fut livré, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, et donc il montre par là que c'est d'institution divine, et c'est dans la pratique immédiate de toutes les communautés chrétiennes depuis les origines. Donc ce n'est pas parce qu'il n'en parle pas lorsqu'il fait mention du dernier repas dans le chapitre 13 qu'il ne connaît pas la pratique de la communion eucharistique, bien sûr, de la célébration du mystère eucharistique. Les versets 60 et 65, c'est la parole de. C'est des versets qui font référence à la parole de Jésus qui opère une séparation parmi ses interlocuteurs et qui oblige à un choix. Et dans cette dernière partie, il nous est dit que beaucoup le rejettent, à l'exception des 12. Et le chapitre se termine par une préfiguration de la Passion, puisque il y a l'annonce de la trahison de Judas. Bien que les 12 sont choisis par le maître annonce que l'un d'eux trahira. Alors, commençons par le signe de la multiplication des pains. Donc, il est commun aux quatre évangiles, les trois synoptiques, plus saint Jean. Dans l'évangile de saint Matthieu, il y a deux récits de la multiplication des pains, chapitre 14 et versets 13-21 et 15-32-38. En Marc, en 6-35-44 et 8-1-9, et en Luc, 9-10-17. Mais il y a une précision qui est intéressante dans l'évangile de Jean, qui ne lui appartient qu'à lui seul. Il y a plusieurs notations qu'il faut retenir, d'ailleurs, dans ce même récit commun aux quatre évangiles. Il est fait référence aux 5 pains d'orge. Et là, évidemment, comment ne pas penser à la multiplication des pains opérée par le prophète Élisée avec les 5 pains d'orge et les 2 poissons, multiplication qui préfigure le ministère messianique de Jésus. Je cite donc ce récit que l'on trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal Shalisha, il apporta du pain, des prémices de l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, là on n'est pas à 5 pains, hein, c'est des pains d'orge, mais il y en a plus, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée donne à ces gens, et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et on aura du reste. » Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et eurent de reste selon la parole du Seigneur. Donc c'est 2 rois 4, 42, 44. Et à l'évidence, il y a une résonance entre ce signe accompli par le prophète Élisée et la multiplication des pains que l'on trouve en Jean 6. Il y a comme une forme de répétition de cette scène, peut-être avec plus de précision sur la profusion. Hein ? Le Seigneur, quand il donne quasiment sans compter. Vous vous souvenez quand on a parlé du miracle de Cana, du signe plus exactement de Cana, les jarres sont remplies à ras-bord, comme pour souligner justement cette surabondance. Les dons du Christ sont toujours marqués par la surabondance. Et là, il y a 12 paniers. Alors, bien sûr, il y a la symbolique du 12, il y a les 12 tribus, mais il y a aussi cette notion de surabondance. Et bien qu'il y ait surabondance, rien ne doit se perdre. C'est une notation très intéressante de notre récit de la multiplication des pains. Et on est déjà dans un contexte eucharistique, avec la formule même de bénédiction sur le pain. Il rendit grâce. Et eucharisteo, c'est le verbe, donc rendre grâce. Alors, bien sûr, nous, on est habitués à ce langage eucharistique. D'ailleurs, la bénédiction sur le pain est pratiquée aussi parmi les Juifs, dans le repas, bien sûr, dans le repas du Seder, dans le repas du Shabbat et dans toutes sortes de repas, on bénit, on rend grâce pour le pain que l'on a reçu. Donc, mais là, évidemment, dans le contexte de Jean, parce que ça va parcourir tout le chapitre 6, on est déjà dans un dévoilement du mystère eucharistique. On est en contexte eucharistique, bien que le dernier repas n'ait pas encore eu lieu. Il y a cette connotation, indiscutablement, grâce à cette évocation de la bénédiction sur le pain. Et plus tard, on verra que cette connotation est grandement accentuée quand on parlera de la chair livrée pour la vie du monde, la chair du Christ qui, je le rappelle, est une nourriture inépuisable. Dans notre divine liturgie, nous le disons au moment de la fraction du pain, on dit l'agneau de Dieu est fractionné mais non divisé, il est toujours mangé mais ne s'épuise jamais. Donc cette nourriture à profusion que le Seigneur nous donne et qu'il est lui-même, parce qu'il y a cette double thématique, il est celui qui donne et il est le don lui-même. Ce don, il est par définition inépuisable. Dans ce récit, il y a plusieurs choses à relever. Il nous dit, ce récit, que Jésus gravit la montagne, qu'il s'est assis avec ses disciples un peu plus haut, verset 3. Et ça, c'est la position caractéristique dans la Bible de celui qui enseigne. Il est dans une position élevée, ou alors c'est au bord de la mer de Galilée, par exemple, il est dans la barque et ceux qui sont enseignés sont sur le rivage. C'est des positions qui marquent qu'il enseigne. Il interroge Philippe, parce qu'évidemment, la foule est nombreuse et il demande « Où achèterons-nous des pains ?» Il dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» Et saint Jean ajoute, en parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve, il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Donc c'est une mise à l'épreuve, bien sûr, puisque il sait, lui, intérieurement, ce qu'il va faire. Ça rejoint quelque part ce que nous avions vu de l'entretien une partie de l'entretien avec Nicodème, quand Jésus avait dit qu'il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme, il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme. Hein, c'était au chapitre 2, le verset 25. Et donc c'est une affirmation très caractéristique qui est répétée plusieurs fois dans le courant de l'Évangile. Alors, autre résonance avec le récit vétérotestamentaire, c'est que la parole de Jésus en 6:5 fait écho à celle de Moïse. Vous savez que Moïse adresse une parole, une demande au Seigneur, quand les Hébreux veulent manger au désert, et en particulier de la viande. Vous savez qu'il y a eu le don pendant l'Exode de la manne, le thème de la manne, on va le voir, et ça, il va être repris dans l'interprétation du discours du pain de vie. Donc il y a la manne, le don de la manne, le don que Dieu fait au peuple de la manne à la demande, en répondant à la demande de Moïse, et le don de la viande, c'est à l'écaille. Hein, vous vous souvenez, hein, c'est donc on trouve ça dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres. Alors, Moïse là, il dit, d'où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple, hein? Et le Seigneur, là, il dit, où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger, hein? Il y a des résonances, parce que il y a à la fois dans ce chapitre 6, et c'est ça qui fait toute sa profondeur et sa difficulté en même temps, hein? C'est qu'il y a une nouveauté que nous allons voir surgir, et il y a en même temps un enracinement dans tout ce qui précède Jésus, dans la loi, dans la prophétie, et qu'il va accomplir. Hein. Pour nous, c'est un peu étrange, parce que ce milieu, on est à une très grande distance de temps, donc il y a un gros effort à faire pour en acquérir l'intelligence, mais pour les interlocuteurs de Jésus, c'est compréhensible. Hein. Et d'où ces résonances, ces va-et-vient entre des scènes que l'on trouve racontées dans l'Exode, notamment parce qu'il y a vraiment dans le chapitre 6 des appels au récit de l'Exode, et le chapitre de Saint Jean, le chapitre 6 de Saint Jean. Donc, résonance du dialogue Moïse et Dieu et Jésus et Philippe. Préoccupé de nourrir une foule nombreuse en un lieu donné, donc à la montagne, qui est toujours un lieu de révélation, je l'ai dit. Alors, c'est pas étonnant d'ailleurs que, à la vue du signe qui va être accompli, les gens disent « celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Je vais revenir là-dessus, parce que c'est une notation aussi importante pour comprendre les choses. On nous dit, dans ce même récit, qu'il y avait beaucoup d'herbe. Donc, Pâques, fête du printemps, il y a de l'herbe. Vous voyez, Saint Jean est plein de ces petites notations qui, si on fait une lecture très rapide, on passe dessus, mais ça montre bien l'importance qu'il accorde aux faits tels qu'ils se sont déroulés dans l'histoire, dans l'espace-temps de l'histoire. Parce que, par exemple, si ce signe avait été accompli au moment de la fête des Tentes, donc à l'automne, à Soukhot, à ce moment-là, l'été est passé et l'herbe, elle est rase, tout a été grillé. Hein. Là, on est au printemps, il y a de l'herbe. Et en même temps, c'est une notation qui nous introduit, comme ça, sans l'air de le dire, sur la thématique du bon berger. Hein? Parce que dans le psaume 22, on nous parle de celui qui nous conduit dans les verts pâturages. Vous voyez, l'herbe du lieu de la multiplication. Déjà, il y a la figure du bon berger qui se profile. Je pense que ceci est tout à fait vrai. Les exégètes le soulignent, pas tous, mais un certain nombre le disent, et je pense que c'est vrai si on se rapporte au fait que dans les récits des synoptiques sur la multiplication des pains, on met en avant la compassion du Seigneur pour cette foule qui a faim. C'est le thème de la compassion. Alors là, le thème de la compassion n'apparaît pas comme tel, mais à travers la figure du bon berger qui est sous-jacente, le thème de la compassion, lui aussi, est quelque part sous-jacent, du moins, je le pense. C'est le psaume, dans le psaume 22, hein, c'est les versets 2 et 4, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors, ce récit se termine par le fait que... avant d'en venir à la fin, il faut se rappeler d'une chose qui me semble assez caractéristique. C'est que le pain va être multiplié. La multiplication, qu'est-ce que c'est ? C'est le signe de la vie. C'est-à-dire que la mort, elle retranche, la vie, elle multiplie. Ça, je crois que c'est une notation aussi importante. Ce pain multiplié, il est le signe de la vie. Il y a déjà ce profil, la justification que l'on va trouver plus loin dans le discours, en donnant cette nourriture de manière surabondante. Non. Il va rester les 12 corbeilles, rien ne doit se perdre. Et donc la multiplication, c'est le signe de la vie, et la multiplication, dans notre récit, elle est liée à la distribution. Et là, il y a quelque chose de particulier au récit de Saint Jean, c'est que dans les synoptiques, le Seigneur multiplie le pain, qui va nourrir la foule nombreuse, plus de 5000 hommes, mais c'est les apôtres qui vont porter la nourriture à la foule. Là, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne directement. Donc, c'est une manière pour Saint Jean de mettre en lumière la personne du Christ. Il y a bien sûr le signe, il y a le don de cette nourriture, mais il faut impérativement aller du don au donateur et aller à la signification même du signe. Parce que on va très vite passer de ce signe qui donne le pain en surabondance à la signification et à l'opposition. Parce que dans cette signification, il y a l'opposition des deux types de nourriture qui se profilent. Il y a la nourriture qui nourrit le corps, bien sûr, qui est nécessaire à la vie. La nourriture est nécessaire pour que la vie se multiplie. Mais toute la leçon du chapitre 6, c'est de nous conduire au pain véritable, celui qui donne la vie véritable, celui qui étant donné en nourriture permet de demeurer en vie éternelle et non plus dans la vie dont le terme est la mort. Je remarque, pour finir sur cet aspect-là, que le Seigneur agit avec grande autorité. Il interroge Philippe. Il demande que tous s'assoient, il rend grâce, bien sûr, il rompt le pain, il le distribue, et son autorité va jusqu'à se retirer sur la montagne pour ne pas être fait roi. Parce qu'évidemment, ce signe va être perçu d'abord comme un signe, la foule, elle, qu'est-ce qu'elle cherche ? Bien sûr, c'est des temps dont on a du mal à s'imaginer la forte espérance qu'il porte. Mais cette espérance peut être déviée, peut être impure. Donc, la foule, là, elle cherche des signes pour savoir qui il est, Quel signe accomplis-tu, toi, pour que nous croyions en toi ? Bon, donc, ce qui se passe, c'est que la foule, voyant ce signe accompli, eh bien, elle va en rester à une compréhension extérieure. Pourquoi ? Parce qu'elle attend des signes de puissance, elle attend la libération d'Israël, mais au moins ceux qui sont là, majoritairement, voient cette libération d'Israël dans un espace purement spatio-temporel, avec la recherche des attributs de puissance que l'on estimait être des attributs du Messie qui allait véritablement libérer Israël de son joug. Or, là, on voit tout de suite qu'il y a un retournement de perspective, c'est-à-dire que Jésus va fuir parce que la foule veut le faire roi. Elle parle de lui comme prophète. Donc, qu'est-ce que c'est que ce prophète ? C'est celui que le Deutéronome a annoncé, où Moïse parle du prophète de la fin des temps, qu'il enverrait, qui serait semblable à lui, qui serait pris de parmi ses frères, qui serait semblable à lui, mais c'est le dernier des prophètes. Donc elle parle de lui comme prophète, et elle veut le faire roi. Et donc, c'est pour ça qu'il se retire, parce que Jésus est effectivement roi, mais pas à la manière dont la foule voulait qu'il le soit. Parce que sa royauté, elle sera par un renversement complètement complet, pardon, de cette conception vulgaire du messianisme, elle sera sa royauté proclamée, mais où ? Sur la croix. Et oui, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc la foule, elle attend des signes de puissance. Alors, on rentre après, dans la deuxième partie. Il n'y a pas tout de suite l'explication. Après, on voit un autre aspect de la scène. Jésus, pour éviter d'être fait roi par la foule, se retire à nouveau seul dans la montagne, nous dit saint Jean. Les disciples ne le suivent pas. Ils descendirent jusqu'à la mer, ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers Capharnaüm sur l'autre rive. Et à ce moment-là, il y a cette révélation qui est faite de nuit. D'ailleurs, je rappelle, on en avait parlé précédemment, que la nuit est souvent un moment privilégié de révélation. Alors que la barque est prise dans la houle, alors qu'un vent violent souffle sur la mer, Jésus marche sur la mer, s'approche de la barque, et là, il se révèle avec les mots mêmes que Dieu donne à Moïse en Exode 3,14. Hein, « Ego eimi, je suis ». Donc c'est le nom divin tel que Dieu se donne à connaître à Moïse sur la Sainte Montagne lors de la révélation. Ça sera répété trois fois dans le chapitre 6, mais là, c'est d'abord au profit des disciples. Il dit « Je suis ». Bon, là, le texte français de la Tobe traduit par « C'est moi, n'ayez pas peur », mais bon, c'est pas la traduction exacte, c'est « Je suis, n'ayez pas peur hein. ». Ils voulurent le prendre dans la barque. Alors, il y a une crainte, hein. Alors ils furent saisis de peur. Bien sûr, mais ça c'est la crainte du pécheur devant l'absolument saint. Nous le savons, nous l'avons rencontré déjà plusieurs fois. Donc il lève encore le voile sur son identité mystérieuse avec ce « je suis », qui est le même qu'en Exode 3,14. Et il montre également, il rassure donc les disciples, hein, et il montre par là qu'il est le maître des éléments. Parce que l'eau, la mer de Galilée, il sépare deux rives. Hein. L'eau, ça, c'est un élément qui sépare. Si vous voulez, hein. Et là, en marchant sur les eaux, il fait de l'eau comme un chemin. Ça ne devient plus donc un lieu de séparation, mais un lieu qui réunit ce qui est ordinairement séparé. Et peut-être que ça fait allusion, bon, des exégètes le disent, notamment un texte qui est paru dans les années 1960 de l'abbé Feuillet, qui est un... C'est paru dans une... dans la revue de... Nouvelle Revue Théologique, je ne me souviens plus très bien. J'ai ce texte en ma possession, mais je ne me souviens plus très bien quelle est sa source exacte. Ça a été publié dans le cadre d'articles dans une revue théologique en 1960. Et l'abbé Feuillet souligne, c'est un très très un texte très fort hein, sur le commentaire sur le chapitre de Saint Jean. Si vous avez l'occasion de le trouver, ne vous en privez pas. Et l'abbé Feuillet souligne justement que l'eau devient un chemin, un peu comme le passage de la mer Rouge, si vous voulez, l'eau qui empêchait le passage des Hébreux. Bon, en se séparant. Bon, là, ce n'est pas exactement le même contexte. Dans le passage de la mer Rouge, évidemment, les eaux sont séparées. Là, Jésus marche sur les eaux. Mais dans les deux cas, ce qui séparait devient chemin, réuni, si vous voulez. Hein? Donc, le Seigneur montre sa maîtrise sur les éléments et étant le maître des éléments, il est celui qui ouvre un chemin. Le récit de la marche sur la mer, d'ailleurs, se termine de manière assez énigmatique. Ils voulurent le prendre dans la barque quand il le rencontre, il vient au-devant d'eux. Mais aussitôt, la barque touche à terre au lieu où ils allèrent. Ah, bon, donc, c'est quelque part, c'est énigmatique. Hein. J'avoue qu'on bute là-dessus. Mais d'ailleurs, c'est une notation secondaire. Hein. Le propos de Jean n'est pas de s'étendre là-dessus. Alors ensuite, c'est la troisième partie. Et la structure, que les cinq parties dont j'ai parlé, si on rentre dans une analyse assez fine du long chapitre 6, c'est une structure concentrique. On va... Le centre, c'est le discours sur le pain de vie, bien sûr. Discours qui est en continuité avec ce qui précède, puisque ça va interpréter. Hein, et ce qui va suivre, à savoir le nécessaire choix en face de celui qui se dit être le pain de vie et qui donne sa chair comme nourriture et son sang comme breuvage, et le choix que ses interlocuteurs vont devoir faire, bien sûr, c'est lié au centre de tout ce chapitre 6, qui est le discours proprement dit sur le pain de vie, donc avec une introduction qui va du verset 22 au verset 25. Qu'est-ce que nous voyons là ? Donc nous voyons que la foule qui est restée sur l'autre rive, ne trouvant pas Jésus, qui d'ailleurs n'avait pas été accompagné ses disciples, ceux-ci étaient repartis seuls. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain avec le Seigneur, après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc la foule le cherche et s'embarque et s'en va à Capharnaüm. Et là, il y a un petit dialogue, et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi ». Alors, il y a plusieurs titres qui sont donnés dans ce chapitre. Il y a le titre de prophète, il y a le titre de roi, hein, donc à la fin des versets qui parlent de la multiplication des pains. Donc c'est au verset 14 et au verset 15, le prophète qui doit venir dans le monde. Ils voulurent le faire roi. Et là, Alors qu'on avait parlé du prophète, on lui redonne le titre de maître, le rabbi. Et quand il lui retrouvait de l'autre côté de la mer, il lui dit « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Et Jésus ne cherche pas à leur répondre directement à leurs questions. La foule a là une certaine demande qui tourne autour du comment, en quelque sorte. Hein, quand es-tu arrivé ici? Comment es-tu arrivé ici? Et alors que Jésus, lui, ce qui l'intéresse, c'est le pourquoi des signes qu'il a accomplis. Et ça permet au Seigneur de montrer que finalement la foule, sa recherche, il n'est pas dupe de sa recherche à la foule. La foule, elle cherche des signes, elle cherche des manifestations évidentes de puissance. Ce qu'elle a vu dans la multiplication des pains, c'est la nourriture à satiété. La nourriture matérielle, celle qui nourrit le corps. Hein. Et donc le Seigneur n'est pas dupe, et c'est pour ça qu'il leur répond. On traduit en vérité, le texte grec dit « Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. » Donc, il estime que la recherche, la qualité, si je puis me permettre, la qualité de la recherche de la foule est sujette à caution. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est à propos du « je suis » dans la révélation qu'il fait à ses disciples dans l'épisode de la marche sur la mer. On trouve 23 fois dans l'évangile de Saint Jean l'expression donc « je suis », qui est le nom que Dieu donne à Moïse sur l'Horeb. 23 fois. Et avec des précisions intéressantes tout au long de l'évangile de Saint Jean, il est dit « je suis le pain de vie », donc chapitre 6, c'est répété 4 fois, verset 35, verset 41, verset 48, verset 51. « Je suis la lumière du monde », chapitre 8, verset 12. « Je suis la porte des brebis », chapitre 10, verset 7 et 9. « Je suis le bon berger », chapitre 10, 11, 14. « Je suis la résurrection et la vie », chapitre 11, verset 25. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », chapitre 14, verset 6. « Je suis le vrai cep », chapitre 15, versets 1 et 5. Donc c'est important ça. Hein, c'est quelque chose qui est très prégnant dans l'évangile de Saint Jean. Donc il n'est pas dupe de la qualité, comme je le disais, la qualité de la recherche de la foule, qui ne peut voir que le don dans son extériorité, dans sa manifestation physique, mais qui ne remonte pas à travers le don au donateur. Parce qu'il nous est dit que comme la manne obtenue par l'intercession de Moïse, le pain multiplié, là, est une nourriture transitoire, et non pas la vraie nourriture, le pain descendu du ciel. Et le pain multiplié est le signe de cette nourriture véritable, mais seulement le signe. C'est pourquoi la foule, elle cherche toujours des signes qui manifestent cette puissance, et elle n'en comprend finalement que la face visible. Mais ils en ont pourtant eu, parce qu'on va voir immédiatement après cela, hein, il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas, alors c'est le thème de l'opposition des deux nourritures, il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, dit l'atome, mais c'est pas la précision qui est Dieu n'est pas mentionnée dans le texte grec, c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Là, il ne parle pas à la première personne du singulier, le Seigneur. Il dit, c'est lui que le Fils de l'homme vous donnera. C'est encore, il parle de lui indirectement. Et pour recevoir cette nourriture que le Fils de l'homme donnera, eh bien, il faut accomplir, il faut travailler, œuvrer aux œuvres de Dieu. Et quelle est l'œuvre de Dieu par excellence, l'œuvre que Dieu accomplit, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Il veut que les hommes croient en celui qu'il a envoyé. Donc, ils vont demander, à cause de leur cécité spirituelle en définitive, parce que ça rejoint quelque part ce thème, ils vont demander, ces interlocuteurs, la foule, ils vont demander un autre signe. Ce qui est surprenant, parce qu'ils en ont eu un. La multiplication des pains était déjà un signe, puisqu'ils cherchent quelque part un côté extraordinaire, un signe de puissance, la multiplication des pains, on était bien, et ils vont en demander un autre. « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyons ?» Alors, le verbe « voir », là, nous l'avions vu précédemment, c'est pas simplement la vue avec les yeux, c'est le verbe « voir » contient l'idée de l'intelligence de ce que l'on voit. La vision doit nous conduire à l'intelligence de ce que l'on voit. C'est... la vision dans Saint Jean, c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, peut-être que certains de ses interlocuteurs se souvenaient que quand le Messie devait venir, il accomplirait des signes, mais qui devaient être annoncés par les prophètes. Alors certains se disent peut-être, oui, mais... Nous, on ne sait pas ce que tu fais, et les prophètes ne t'ont pas annoncé, puisqu'on n'a pas connaissance des signes que tu peux être amené à accomplir et que les prophètes auraient annoncé. C'est possible d'envisager les choses de cette manière. Quelle est ton œuvre, donc, demandent les gens de la foule, parce qu'ils veulent savoir. C'est toujours la recherche. Même si cette recherche est entachée d'une vision pour le moins rétrécie de la messianité, il n'empêche que cette recherche, elle existe. Donc, il demande quelle est ton œuvre, même si on peut être étonné qu'il demande à nouveau un signe alors qu'il en a déjà accompli un et pas des moindres. Il ne faut pas pour autant mépriser cette question de la foule. Elle a quand même quelque part sa légitimité, parce qu'il faut se souvenir qu'on est dans un contexte de grande attente du Messie, de très grande attente. Cette attente, bien sûr, elle n'est pas toujours pure, elle charrie certaines visions, elle charrie des éléments qui... font que l'espérance peut être déviée, mais elle est quand même là, l'attente. Donc, quelle est ton œuvre? Et ils lui disent, sur ces entrefaites, « Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. » Alors, dans cette partie, avant d'en venir à ça proprement dit, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier de souligner, c'est que tout le chapitre 6 est parcouru par ce thème de la foi. Il faut, pour comprendre les signes, pour accepter et reconnaître la personne de Jésus, Messie qui devait venir, celui qui est annoncé par les prophètes, il faut s'ouvrir à la foi. Et s'ouvrir à la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se laisser attirer par Dieu, parce que nul ne va au Fils si il n'est attiré par le Père. C'est dit plus loin dans, dans le discours sur le pain de vie. Et être attiré par par le Père, c'est être accueilli par le Fils. Parce que tous ceux que le Père attire et conduit au Fils, le Fils ne les rejettera pas. C'est dit très explicitement au verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Et alors, là, il y a encore sous-jacente la thématique que rien ne se perd. Hein ? De la même manière que le pain multiplié a beaucoup de restes, parce que le pain est multiplié en abondance, de manière, on pourrait dire, inépuisable, les 12 corbeilles pleines, c'est quelque part le signe de cette surabondance, mais cette surabondance, cette multiplication propre à la vie, et c'est de la vie éternelle dont il s'agit là, n'entraîne pas que les choses se perdent. Et le Seigneur le dit, « Moi, je ne perds aucun de ceux que le Père m'a donné et a attiré vers moi. » Il y a ce thème qui est toujours sous-jacent, que le Christ ne perd rien de ce qui lui a été confié, de ce qui lui a été donné par le Père. Alors, on en vient donc à la manne, après l'opposition des deux nourritures, qui appelle à la foi, ça, c'est ce thème qui, à côté de celui de la mendication qu'on va trouver plus loin, donc, où le Seigneur se révèle comme le pain descendu du ciel, qui donne sa chair à manger et son sang comme breuvage. Tout ça, ça se reçoit dans l'esprit, dans la foi, hein, bien sûr. Et on rentre là dans une autre partie du discours, à partir du verset 30, où la foule demande un signe pour qu'elle voie et qu'elle croie. Et elle demande à Jésus, « Quelle est ton œuvre ?» Et elle lui dit tout de suite, « Au désert, nos pères ont mangé la manne. » Ça, c'est quelque chose de très important, parce que la manne est un don du ciel, bien sûr. C'est Dieu qui donne la manne. C'est Moïse qui, sur les... Vous savez que les Hébreux récriminent. À ce moment-là, ils murmurent. On va trouver ça encore, c'est un appel au livre de l'Exode, une résonance avec le livre de l'Exode. Il murmure, et Dieu va donner la manne et la viande, les cailles. Bon, cette manne, c'est un don de Dieu, et c'était considéré comme le plus grand prodige de l'Exode. Hein, celui qui a permis au peuple de non seulement de se sustenter, bien sûr, mais qui... a pu survivre dans cette longue traversée du désert qui a duré une quarantaine d'années. Alors les gens demandent un signe. C'est comme s'ils lui disaient, est-ce que tu es capable d'accomplir quelque chose de plus grand que ce prodige accompli au désert, à savoir le don de la manne, et à ce moment-là, nous croirons en toi. Il y a toujours cette, cette demande de signe qu'on trouve tout au long de l'évangile de Jean. Ça ira même jusqu'à quelque chose de grotesque, hein, c'est-à-dire au moment de la crucifixion. Les scribes et les pharisiens qui sont là, ils disent « Mais il en a sauvé beaucoup, qu'il se sauve, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Comme si le signe allait entraîner pour ces gens-là le fait de croire. En fait, même s'il était descendu de la croix, le signe n'aurait rien signifié pour eux. Ils n'auraient pas cru, parce qu'ils ont le cœur endurci. Hein. Vous vous souvenez de toute la thématique du Pharaon qui, recevant les signes de Dieu, s'endurcit intérieurement. Le signe produit l'effet inverse, un endurcissement, et non pas une ouverture du cœur vers la foi, hein, une ouverture du cœur vers l'action de Dieu en l'homme, donc qui suscite la foi, qui met sa confiance en Dieu. Au contraire, là, c'est l'endurcissement qui prédomine. Alors, il demande d'accomplir un signe plus grand que celui de la manne, au verset 31, parce que finalement, il considère que la multiplication des pains, c'est un signe inférieur. Or, ils le mettent au défi, en quelque sorte, hein, pour le reconnaître vraiment comme le prophète des derniers temps. Il faut qu'il fasse quelque chose de supérieur à ce qui avait été accompli pendant l'Exode. Et Jésus ne répond pas du tout sur le même terrain que ses interlocuteurs. Il leur dit « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors c'est la réplique qu'ils apportent tout de suite après cette affirmation « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là » prouve qu'ils n'ont pas compris. Hein ? Vous vous souvenez de la Samaritaine hein, qui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, hein, donne-moi de cette eau-là que je n'ai plus à venir puiser à cette heure. » Bon, ben là, c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans l'intelligence du signe parce que leurs yeux intérieurs, les yeux spirituels, ceux qui sont ouverts vers les réalités transcendantes, intérieures, spirituelles, les yeux de la foi, en quelque sorte, eh bien, ils sont fermés. Donc ils ne voient que un don supplémentaire d'un pain qu'ils ont envie de manger, de la même manière qu'ils ont été rassasiés à satiété lors de la multiplication des pains. Alors, revenons sur la manne, parce que l'évocation de la manne, c'est quelque chose de très important. Et ça montre, comme le disent bon nombre d'exégètes, que, et je pense qu'ils ont raison, d'ailleurs dans la tradition patristique on trouve ça aussi, qu'il y a des réminiscences très fortes de l'Exode dans ce chapitre 6 de Jean. Il y a une résonance entre le récit joannique et le livre de l'Exode par l'évocation de la manne, parce que là aussi, on apprend dans le Nouveau Testament qu'il y a donc la manne qui a sustenté les Hébreux au désert, et puis il y a la manne céleste, parce que le pain du ciel, c'est aussi la manne céleste. Dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, on en parle. Mais qu'est-ce que c'est que cette manne ? Bon, c'est une nourriture, nous le savons, qui est donnée aux Hébreux. Le mot lui-même, c'est « manrou » en hébreu, donc ça signifie « qu'est cela ?» Qu'est-ce que c'est ? Qu'est cela ? Ça a un caractère mystérieux, nous dit le livre de l'Exode, au chapitre 16, verset 15. Mais ce n'est pas simplement une nourriture qui est donnée comme ça, c'est le don que Dieu fait de cette manne. À travers ce don, Dieu veut éprouver son peuple tout en le faisant subsister. C'est dit très clairement en Exode 16, 4 et 28. Il y a beaucoup de commentaires qui en parlent en dehors du Pentateuque, et notamment dans le livre de la Sagesse, au chapitre 16, verset 20-29, dans le psaume 77, ce qui fait dire que à Saint Jean que la manne était préparation du vrai pain du ciel, dont elle était l'annonce en fait. Il y a la manne dans Jean 6, fonctionne comme une figure du vrai pain du ciel, mais l'écriture de l'Ancien Testament n'ignorait pas que la manne renvoyait à autre chose, à une autre réalité aussi, qui était la parole de Dieu. Ce n'était pas simplement un aliment pour subsister au désert. Hein. La manne qui était donnée d'ailleurs en quantité mesurée jour après jour. Sauf le vendredi, on en donnait double ration, parce qu'il y avait le Shabbat du lendemain. Mais cette manne, elle était le signe, là aussi, mais il fallait avoir les yeux de l'intelligence, de la foi pour le comprendre, elle était le signe que, comme le dit le Deutéronome, l'homme ne se nourrit pas simplement des aliments nécessaires à sa vie, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, à travers cette manne, Dieu voulait conduire son peuple à la considération de la parole qui est vraie nourriture. De la même manière que à travers les pains multipliés, à travers le thème du pain qui descend du ciel, le Christ veut, en s'identifiant à ce pain qui descend du ciel, nous conduire à la véritable nourriture, celle qui nous nourrit pour la vie éternelle et non pas pour la seule vie passagère. Donc, les pains multipliés sont des signes en attente de quelque chose de plus grand encore, comme la manne des Hébreux au désert est en attente du pain descendu du ciel. Attente donc en accomplissement. Le pain qui descend du ciel, il accomplit tout ça. Cette évocation, je pense, est tout à fait parlante. Et évidemment, pour nous, peut-être qu'elle n'est pas compréhensible au premier abord, mais dans le contexte de la révélation de l'Évangile, elle l'est. C'est-à-dire qu'elle fait appel à quelque chose que les interlocuteurs de Jésus connaissent ou devraient connaître. Parce que comme la manne était le signe de la parole et de la révélation, eh bien, le pain qui descend du ciel, c'est le signe du Seigneur lui-même qui va se donner en nourriture à ceux qui ont foi en lui. Alors, il y a quelque chose de très curieux dans tout ça. Est-ce que, moi c'est une question que je me pose, hein, est-ce que finalement les interlocuteurs de Jésus, qui sont incrédules manifestement, n'ont pas oublié la leçon des prophètes et la leçon de leur propre tradition? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites au sujet de la manne, dans le livre de l'Exode, notamment, que j'ai cité, dans le livre des Nombres, dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, verset 15, dans le Deutéronome, bien sûr. Mais il y a d'autres sources, parce que vous savez que la tradition, c'est à la fois la tradition écrite, et c'est aussi la tradition orale. Saint Basile le dit d'ailleurs, c'est ce qui est valable dans la tradition juive et aussi valable dans la tradition chrétienne. Saint Basile le Grand nous dit, il y a la tradition avec son versant écrit et son versant oral. Cette tradition des apôtres qui se transmet à leurs successeurs de génération en génération. Et on ne peut comprendre la tradition écrite qu'en relation avec la tradition orale, et inversement, la tradition écrite est en quelque sorte le juge de paix de la tradition orale. C'est-à-dire que la tradition orale ne peut pas véhiculer des vérités qui seraient contraires à la tradition écrite. Et bien là, on a aussi des exemples dans la tradition écrite et dans la tradition orale d'Israël sur ce pain qui a été donné à manger aux Hébreux au désert et sur sa signification profonde. On retrouve d'ailleurs à l'occasion de ce don de la manne au désert le terme de murmure. Hein ? Les Hébreux murmurent au désert. C'est écrit dans Exode au chapitre 16, comme les Juifs murmurent autour de Jésus en Jean 6, 41. Les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Ils sont dans la même posture que les Hébreux qui attendaient un prodige divin au désert et qui murmurent contre Moïse et Aaron parce que il leur reproche de les avoir emmenés, finalement. Hein ? Il leur dit, mais Oui, mais en Égypte, on était des esclaves, d'accord. On avait des chaudrons, puis il y avait de la viande dedans, on mangeait. On avait le pain, on avait la viande, on mangeait. Alors que toi, tu nous conduis au désert où on crève de faim. Bon, voilà. Donc ils murmurent contre Moïse et Aaron. Et donc c'est à partir de là que Dieu donnera le pain. Et comme ça ne suffit pas, parce que ce pain avait un goût sûrement trop monotone, il donnera le don de la viande, le don des cailles. Ce verbe murmurer est repris trois fois, verset 41, verset 43, verset 61. À deux reprises, c'est le fait des Juifs, à une reprise et à l'autre, c'est les disciples eux-mêmes qui murmurent. Alors le psaume 77 au verset 24, il chante les hauts faits de Dieu pour son peuple dans la sortie d'Égypte et il rappelle, et il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir et il leur donna le pain du ciel. Donc la manne est bien un pain du ciel. Le verset 25 du même psaume, le psaume 77, parle du lechem abirim, c'est-à-dire le pain des forts. Qu'est-ce que c'est que le pain des forts? C'est le pain des puissances célestes. Donc la manne vue comme le pain des hiérarchies angéliques, hein, des anges du ciel, des anges et des archanges du ciel, de toutes les puissances célestes. Et c'est pour ça que la Septante, d'ailleurs, parle du pain des anges, Arton Angelon, hein, qui traduit fort justement l'Echem Abim hébreu. Le pain des forts, mais qui renvoie à les forts en question, c'est les puissances célestes. Et le livre de la sagesse, donc au chapitre 16, le verset 20, dit: Tu as distribué à ton peuple une nourriture d'ange, tu lui as procuré du ciel, sans effort de sa part, un pain tout préparé, ayant la capacité de toute saveur et adapté à tous les goûts. La substance que tu donnais manifestait ta douceur pour tes enfants. Là, donc, la douceur renvoie évidemment à la tendresse et à la miséricorde de Dieu. Autre référence, Néhémie 9,15, j'ai déjà parlé de cette référence. Tu leur as donné pour leur faim le pain du ciel et tu as fait jaillir pour eux l'eau du rocher pour leur soif. Ça, c'est des termes qui nous sont familiers dans bon nombre de nos offices, on emploie cette terminologie, office des heures. Et alors, dans la tradition orale d'Israël, vous savez que dans la bibliothèque de la Pléiade, je vous le recommande d'ailleurs, a publié ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Et dans ce gros volume des écrits intertestamentaires, on trouve des choses très intéressantes qui nous renvoient à la tradition orale d'Israël et à l'apocalyptique juive. Alors, certains considéraient la référence de l'Écriture sainte, donc le psaume 77, le pain des forts, donc l'Echem Abirim, pardon, cette nourriture que mangent les anges. Bon, ça fait pas l'objet d'un accord unanime, puisque certains disent que les anges ne mangent pas, c'est Satan et ses sbires qui mangent, mais pas les anges. Bon. Mais n'empêche que c'est bel et bien dans les psaumes. Et j'ai trouvé un texte qui s'appelle l'Apocalypse syriaque de Baruch. Pourquoi syriaque? Parce qu'on a trouvé une traduction syriaque qui a été éditée, je sais plus si c'est Henri Charles Puech qui en a fait l'édition critique, il me semble bien. Ça m'échappe au moment où j'en parle. Mais depuis, en deçà du texte syriaque, on a trouvé aussi des fragments d'un texte grec concernant les mêmes choses. Baruch, fils de Neria, et il est dit, à propos donc du trésor de la manne, en ce temps, et alors là c'est un texte apocalyptique, c'est-à-dire que ça concerne la fin des temps. Donc c'est le temps du règne du roi Messie, puisque le roi Messie, il inaugure la fin des temps, le temps apocalyptique, le temps messianique et le temps apocalyptique, c'est la même chose, hein. Donc, en ce temps, nous dit l'Apocalypse syriaque de Barreau, voici que descendra de nouveau, le trésor de la manne. Voyez ? Et ils mangeront pendant ces années-là, car ils seront parvenus à la fin des temps. Et plus loin, là c'est au chapitre 29 de l'Apocalypse syriaque, hein, à partir du verset 7 ou 8, je ne le sais plus, j'ai pas le texte sous les yeux, j'ai juste la référence, mais vous, si vous allez dans les écrits intertestamentaires, vous trouverez la référence au complet. Et au chapitre 30, donc qui suit, au premier verset, c'est intéressant, la notation est intéressante, parce qu'il est ajouté « Après cela, quand sera accompli le temps de la venue du Messie, et qu'il retournera avec gloire, tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance ressusciteront. » C'est-à-dire que là, on a un lien entre le temps messianique, qui est la fin des temps, donc qui... Le temps messianique ouvre le temps apocalyptique. Le trésor de la manne, cette manne qui descendra de nouveau du ciel. Et la vie éternelle, la résurrection des morts. Vous voyez, si les interlocuteurs de Jésus avaient gardé l'intelligence de tout ça, ils auraient pu comprendre ce que signifiait sa parole sur le pain descendu du ciel. Ils auraient pu se poser la question de savoir si celui qui parlait ainsi n'accomplissait pas ces paroles de la tradition écrite, donc de l'Écriture sainte, et de la tradition orale, en la circonstance de l'apocalyptique, des textes de l'apocalyptique juive. Parce que ces textes, bien sûr, on a souvent des versions qui ne sont pas forcément contemporaines, de loin s'en faut, de l'Écriture sainte, mais ces textes sont la mise par écrit de traditions qui les précèdent. Et bien avant la mise par écrit, il y a déjà ces traditions apocalyptiques qui sont portées. Donc, je me demande s'ils n'ont pas, par leur vision rétrécie de la messianité, oublié tout ce que la tradition d'Israël portait, qui leur aurait permis de comprendre la parole sur le pain de vie, ou au moins de s'ouvrir à une compréhension de cette parole sur le pain de vie, alors que tout le chapitre 6 de Saint Jean nous dit le contraire. À chaque fois, ils sont complètement à côté de la plaque, si je puis me permettre. Donc ça veut dire que Jean 6... fait très fortement appel au fond de l'Exode, à la mémoire de l'Exode, s'agissant de ce don de la manne. Parce que, mêlé au récit de l'Apocalyptique, le trésor de la manne qui doit descendre à nouveau, c'est bien le pain du ciel, c'est bien la manne céleste qui descend du ciel. Qu'est-ce que cette manne céleste? Plutôt, qui est cette manne céleste? C'est celui qui parle, c'est Jésus. C'est-à-dire que il est lui-même le Verbe, nous l'avons vu précédemment, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, eh bien, il est là, le Verbe pain céleste descendu du ciel. Il est cette manne qui devait venir descendre à nouveau à la fin des temps. Puisque, avec sa venue, les temps messianiques sont inaugurés. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, dans la lettre à l'église de Pergame, donc chapitre 2, verset 17, après avoir rappelé celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur je donnerai de la manne cachée. Hein. Et cette manne cachée, dans la tradition orale d'Israël, fait partie des objets qui seront donnés au jour du Seigneur, c'est-à-dire à la fin des temps. Vous voyez? Donc, ça nous emmène très loin, finalement, ça. Hein, pour, si on essaye de comprendre ce qui a conduit les interlocuteurs de Jésus à la cécité spirituelle devant ce qu'il leur dit, on peut, en tout cas, moi, c'est à ça que je vous invite, je me dis, finalement, ben, ils ont oublié leur tradition. Ils l'ont oublié. Oui, ils l'ont oublié parce que ils auraient pu accéder à cette compréhension si ils avaient gardé ça présent en eux, me semble-t-il. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de substanter, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens, je me répète, mais c'est important de le rappeler, substanter matériellement.
Quand vous dites ils ont oublié leur tradition, est-ce que c'est vraiment oublier leur tradition ou pas compris leur tradition?
C'est sûrement...
Parce que si oui. Effectivement ils s'attendaient à un Messie surpuissant, est-ce que c'était vraiment ça qui était annoncé dans leur tradition? Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas compris?
C'est dans le même mouvement, ils oublient parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Et bon, mais oui, quelque part, je pense qu'ils pouvaient, comment dire, ceux qui n'ont pas oublié, c'est justement les 12. Parce qu'au moment de la séparation, avec tous ceux qui n'ont pas compris ce discours sur le pain de vie, qui pour eux est objet de scandale, parce que quand le Seigneur va dire « Celui qui mange ma chair et prend mon sang comme breuvage aura la vie éternelle », pour eux c'est scandaleux. Ils disent « Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ?» Bon. Et puis le sang, c'est encore plus scandaleux, parce que le sang, c'est signe de l'Alliance, c'est la vie, le sang c'est la vie, et ça appartient qu'à Dieu. Bon. Donc, mais les disciples, eux, ne s'en iront pas, les 12 ne s'en iront pas. Et Pierre dira, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, il y a bien quelque part des gens qui ont omis, qui ne sont pas arrivés à la compréhension de ce discours sur le pain de vie, parce qu'ils ont oublié cette tradition apocalyptique d'Israël, notamment, et ceux qui, dans leur cœur, ont gardé tout ça et qui leur a permis de... accéder à l'intelligence. C'est une hypothèse que je fais, je ne sais pas, peut-être que je suis dans l'erreur, je ne sais pas, hein, ça mérite débat. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Père Jean, mais c'est... Bon, moi je me suis posé la question et je vous livre ce dont je suis porteur et... Bon, voilà. Parce que le discours de Jean 6 se situe dans la perspective de l'Exode, se situe dans la perspective du Deutéronome. Si Jésus a fait le signe des pains, qui est en quelque sorte la réplique de la manne, quelque part, hein, c'est pour suggérer que sa parole, ses enseignements, son nourriture, à la condition d'y adhérer par la foi. Bon. Donc les interlocuteurs, il leur manque la foi là, dans cette circonstance. Mieux encore que lui-même, le logos divin du prologue, dont Jean nous a parlé dans le prologue, eh ben, il est le vrai pain descendu du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les dons de Dieu dans l'Ancienne Alliance, le don de la manne au désert, les signes que Jésus accomplit sont des signes d'accomplissement, de parachèvement. La manne était sustentation des Juifs au désert, mais elle était aussi mise à l'épreuve de ces mêmes Hébreux pour leur faire comprendre qu'on ne se nourrit pas seulement de cette manne, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et de la même manière, les signes que Jésus accomplit, c'est pour faire comprendre que le pain de vie, il est la vraie nourriture. celle dont la manne était figure, préfiguration, attente de cette vraie nourriture, de cette manne, de ce trésor de la manne qui devait venir à nouveau et qui était donné par le Messie à la fin des temps, qui appartient à, qui est une prérogative du Messie, qui donne. Et là, en la circonstance, le Messie, il est lui-même ce trésor de la manne qui devait venir à nouveau. Alors, le récit après, il revient. Hein, il y a un développement entre les versets 41 et le verset 48. Ensuite, il y a un approfondissement entre le verset depuis le verset 51 au verset 58. Mais les mêmes termes, les mêmes paroles reviennent, bon, selon un procédé finalement qui est assez classique dans toute l'Écriture sainte, mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une réalité mystérieuse qui se donne, qui se dévoile de plus en plus et qui se donne à connaître toujours plus profondément. Un nouveau je suis, au verset 35, quand les Juifs ont dit, en écho à la parole de la Samaritaine, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là, comme la Samaritaine avait dit, « Donne-nous-moi toujours de cette eau-là », Jésus leur dit, « Je suis, à nouveau, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi n'aura pas soif. N'aura jamais soif, pardon. » Et là, il explique que tous ceux que le Père lui donne viendront à lui, et que celui qui vient à lui, attiré par le Père, le Seigneur, il ne le rejettera pas. Pourquoi ? Parce que il est venu pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est de ne perdre aucun de celui que le Père lui a donné. Là aussi, on retrouvera plus tard, beaucoup plus tard dans l'Évangile, notamment dans le chapitre 17, dans la grande prière sacerdotale, où le Seigneur dira « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donné, ceux que tu m'avais confiés. » Et c'est ces paroles-là, quand le Christ leur a dit « Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi je ne le ressusciterai au dernier jour », c'est ces paroles-là qui vont susciter le murmure à son sujet, comme avait été suscité en Exode 16, par manque de foi, les murmures des Juifs contre Moïse et son frère Aaron. Là, il y a quelque chose. Bon, dans ces murmures, il y a un dialogue. On sent qu'il n'y a pas de communication. Le Seigneur dit « Je suis le pain de vie, le pain qui descend du ciel. » Et les autres disent « Mais comment celui-là que nous connaissons, hein, nous connaissons sa filiation humaine, il est le fils de Joseph, disent-ils, et comment celui-là peut-il prétendre être le pain descendu du ciel ?» Alors là, il y a une remarque, justement, de saint Jean Chrysostome sur cette partie du chapitre, qui dit, en murmurant, bon, donc c'est des Juifs dont il est fait mention au verset 41, en murmurant, il lui faisait ce reproche, n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Ce qui montre qu'il n'avait nulle connaissance de son admirable génération. C'est pour cela qu'il l'appelait encore fils de Joseph. Et toutefois, le divin sauveur ne les reprend point, il ne leur dit pas « Je ne suis point le fils de Joseph ». Non qu'il fût le fils de Joseph, mais parce qu'il n'était pas encore capable d'entendre parler de son admirable génération. Que s'il ne pouvait point encore comprendre sa naissance charnelle, bien moins aurait-il compris sa génération ineffable et céleste. S'il ne leur découvrit pas le secret de sa naissance terrestre, à plus forte raison n'aurait-il pas entrepris de leur révéler un mystère aussi sublime. Cependant, c'était pour eux un sujet de scandale que de croire que, non, que de le croire de naissance vulgaire. Néanmoins, ils ne leur découvrent pas la vérité, de peur qu'en étant une pierre d'achoppement, il ne fît qu'en mettre une autre à la place. Voilà, donc les Juifs répondent par une pseudo-connaissance de la génération biologique du Seigneur. Ah oui, 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 c'est, on est toujours dans des dialogues décalés, parce que eux, ils suivent leur logique. Leur logique, c'est une logique d'incrédulité. Donc ils ne peuvent pas accorder, bon, incrédulité à cause de ce que nous avons vu précédemment, bon, ils ne peuvent pas accorder crédit à la parole, d'autant que c'est une parole bon, qui ne peut être entendue que dans la foi, c'est-à-dire cette parole ne peut être reçue que par ceux qui sont attirés par le Père et donnés au Fils, et cette parole ne peut être reçue que par ceux qui œuvrent aux œuvres de Dieu. Hein ? Bon, donc, évidemment, oui, j'en ai plus pour longtemps. On est dans un décalage permanent. Hein. On voit finalement que cette parole fait l'objet d'une incompréhension, ensuite de murmures, et ensuite, plus loin, au verset 52, à une discussion violente entre les Juifs. Après que le Seigneur ait dit « Je suis le pain vivant qui descend du ciel », celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Donc celui qui me mangera, puisque là, il parle à la première personne, il dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Alors évidemment, la discussion violente entre eux montre qu'ils ne sont pas d'accord. Ils discutent violemment entre eux à ce propos, donc ils ne sont pas d'accord sur la suite à donner à cette parole. Une autre, évidemment, un autre appel au fond vétérotestamentaire qui est sous-jacent au sixième chapitre de Jean, c'est le thème du banquet messianique, hein, la nourriture des temps eschatologiques, elle est souvent évoquée sous la figure du banquet du royaume. Hein. Le Seigneur invite à sa table et le repas sacré, parce que bon, évidemment, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, ça fait très explicitement la référence à la pratique de l'Église, au commandement du Seigneur, à ce que le Seigneur enseigne lors du dernier repas, et à donc à la pratique de l'Église qui suit immédiatement, donc le mémorial de la scène du Seigneur, et c'est un repas sacré, et ce thème du repas sacré, il est connu aussi dans l'Écriture sainte, comme dans la tradition orale. Ce thème du repas sacré, il est toujours lié à l'Alliance. Dès la conclusion de l'Alliance, dans l'Exode, ça se termine, bon, par l'aspersion de sang. L'Alliance, si vous voulez, on pourrait donner trois termes qui sont en lien entre eux. C'est l'Alliance, l'aspersion du sang, le sang répandu, donc, hein, le sang est le don de l'Alliance est concrétisé par l'aspersion du sang, de la même manière que à la scène, le Christ dit « Buvez-en tous, ceci est le sang de l'Alliance. » Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. La nouvelle Alliance, elle est aussi marquée par le sang répandu. Ça, c'est constant d'un bout à l'autre de la Révélation, dans le Premier Testament comme dans la Nouvelle Alliance. Bon, et puis, plusieurs références scripturaires nous rappellent que l'Alliance se termine par un repas sacré. Et il y a le repas donc après la conclusion de l'alliance sur la Sainte Montagne, relatée dans le livre de l'Exode. Il y a aussi les repas dans l'enceinte du Temple, ce qui fait que on a sacrifié au Temple, il y a une part qui est réservée au Seigneur, et il y a une part qui est consommée dans le cadre d'un repas sacré, mais dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui invite au repas. Donc, il y a tout ce fond vétérotestamentaire là qui est sous-jacent, et ce fond du festin messianique, bien sûr, il est fondamental. L'Eucharistie, elle est aussi liée, l'Eucharistie chrétienne, elle est liée à ce festin messianique, puisque le pain descendu du ciel, le trésor de la manne qui se donne à nouveau, c'est Dieu parmi nous qui se donne en nourriture aux fidèles. Et c'est décrit en des termes d'ailleurs très réalistes. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang. Donc et le terme « manger » là, c'est dans le texte grec, le verbe grec, il peut dire aussi « croquer ». Hein, croquer, mordre, donc c'est quelque chose de tout à fait réaliste, parce que il y a une intimité entre la nourriture et puis l'homme qui la mange. Hein. Il y a une réciprocité quelque part entre cette nourriture qui est mangée et l'homme qui la mange, de telle sorte que en mangeant le pain descendu du ciel, la manne céleste descendue du ciel, la manne des derniers temps, puisque le Messie est là et les temps eschatologiques sont inaugurés, et il y a une réciprocité qui s'instaure dans la foi, bien sûr, et qui n'est compréhensible que parce que l'Esprit nous éclaire. Il y a une réciprocité qui s'instaure. Cette nourriture que j'ai absorbée, elle me devient en quelque sorte co-naturelle. Il y a une forme de, je sais pas si le terme est exact, mais de consanguinité. On pourrait parler, de, je sais plus quel père parle de consanguinité entre le Christ et l'homme qui a mangé la chair de l'agneau triomphant, la chair vivifiante de l'agneau triomphant. Parce que
on est ce qu'on mange.
Oui, on est ce qu'on mange. Et quand nous communions à la Sainte Eucharistie, nous ne mangeons pas la chair d'une victime morte. La chair du Christ, bien sûr, le Christ a donné sa chair pour la vie du monde, donc il y a l'aspect sacrificiel. Il est passé par la mort, mais sa mort est vivifiante, sa chair est vivifiante. Nous consommons une chair vivifiante, pas la chair d'une victime morte. Hein. Bon. Donc, il y a cette relation de réciprocité qui s'instaure entre... dans le mystère eucharistique, où là, Saint Jean nous conduit, finalement dans le chapitre 6, il nous conduit à... il ouvre nos esprits à ce mystère eucharistique, il y a une réciprocité qui va s'instaurer entre celui qui mange le Christ, qui est pain vivant descendu du ciel, nourriture qui donne la vie éternelle, et cette nourriture qui est mangée. À l'inverse, bon, donc les interlocuteurs, ils vont complètement s'enfermer dans le raisonnement. Et ce qui va être dit, c'est que cette parole est trop dure à entendre. Cette parole est rude. Qui peut l'écouter? Là aussi, toute la thématique vétérotestamentaire et la thématique de l'apocalyptique sur le festin messianique, bah, elle est comme oubliée. Hein. Quelque part, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai cette impression-là que ce thème si fortement associé à l'Alliance et ce thème qui acquérera au fur et à mesure du temps une force toujours plus grande avec la Nouvelle Alliance et avec, par exemple, le chapitre 55 d'Isaïe qui parle du festin de la Nouvelle Alliance, auquel Dieu invite les peuples, eh bien, ce thème est laissé de côté et la parole du Christ ne peut pas être reçue. le pain descendu du ciel, la chair qui doit être mangée, le sang qui doit être reçu comme breuvage, cette nourriture qui est vraiment la nourriture céleste, qui est la vraie nourriture et la vraie boisson, celle qui donne la vie éternelle et celle qui fait que la mort n'a pas prise, même si nous devons y passer jusqu'à la consommation des siècles, la mort n'a plus le dernier mot parce que nous avons pris la nourriture qui donne la vie éternelle et que le Seigneur dit que celui qui a mangé et qui a bu, il le ressuscitera au dernier jour. Alors cette parole, elle n'est pas entendue, bien sûr. Et ça se termine par quelque chose qui est doublement dramatique, c'est-à-dire que les Juifs, les interlocuteurs, la foule, tous les interlocuteurs de Jésus sont restés à une compréhension purement charnelle de ce discours du pain de vie, compréhension charnelle qui mène évidemment à une impasse, hein, parce que c'est l'esprit qui vivifie, comme dit le Seigneur, la chair ne sert de rien, et que ses paroles sont esprit et vie. Et donc cette finale est doublement dramatique parce que les rangs vont se clairsemer, beaucoup parmi ceux qui suivaient le Seigneur vont l'abandonner, vont s'éloigner, parce qu'ils ne recevront pas cette parole. À partir de ce moment-là, nous dit l'Évangile, beaucoup le quittèrent. Et donc, l'autre aspect dramatique, pour finir, c'est que, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la confession de Simon-Pierre, c'est une très belle parole, parce que Jésus demande aux 12, les 12 restent. Hein, il s'adresse, il y a la foule bon, qui s'éloigne, bien sûr, il y a les incrédules, il y a des disciples, parce que les disciples du Seigneur, ce n'est pas seulement les 12, ce n'est pas les 12 apôtres simplement, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et de ce jour-là, beaucoup le quittèrent. Et alors que Jésus les interroge, et vous est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Eh bien, Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est vraiment une parole absolument magnifique et d'une très très grande profondeur. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Donc, tout ce discours du pain de vie n'est pas reçu par eux comme un scandale, alors que les autres trouvent cette parole scandaleuse, trop dure à écouter, mais même scandaleuse. À la limite, ils en ont une compréhension anthropophage, je dirais. Bon, hein. Donc, comment celui-ci, qui est le fils de Joseph, dont nous connaissons les parents, peut-il, alors que nous connaissons sa généalogie humaine, comment celui-ci peut-il prétendre donner sa chair à manger? Bon. Chez les 12, c'est tout à fait différent. Eux, ils ont reçu cette parole dans la foi et ils la comprennent. Mais il y a quand même une notation dramatique dans le tout dernier verset, au verset 71, c'est qu'il y a malgré tout, malgré ces 12 disciples qui ont été choisis, malgré ces 12 disciples dont le cœur est ouvert à l'esprit, est ouvert par l'Esprit de Dieu, et qui de ce fait ont cru que celui qui était en face d'eux est le Saint de Dieu, donc l'envoyé de Dieu, le Messie, le Verbe, tout ça, même s'ils n'ont pas encore une compréhension vraiment totale de ce que signifie le discours sur le pain de vie, hein, mais ils le suivent, ils font confiance, ils sont dans une relation de foi avec eux. Malgré tout cela, le récit se termine par l'annonce de la passion. Enfin, renvoie à l'annonce de la passion, plus exactement, par la trahison de Judas. Parce que les 12 ont été choisis, mais cependant, l'un de vous est un diable, et donc c'est Judas qui le trahira précisément. Après la dernière scène à Gethsémani, qui le livrera. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop incompréhensible, mais vous voyez, ce chapitre 6, il est d'une richesse considérable, hein, à la fois parce qu'il révèle de celui qui est le pain de vie, à la fois par le dévoilement du mystère eucharistique, et à la fois par le soubassement vétérotestamentaire auquel il fait appel. Le festin messianique, la sagesse donc, qui invite au festin messianique, et par les rappels de l'Exode, en opposant ces deux nourritures, cette manne, nourriture qui sustente, mais qui fait appel à une manne qui, elle, donne la vraie vie, qui est la vraie nourriture pour la vraie vie, qu'il est lui-même, bien sûr. Voilà. Alors, vous doutez bien qu'il y aurait énormément de choses à dire. Hein. C'est une telle richesse que... Il faudrait aussi, ce que j'ai fait pour moi, mais je n'avais pas le temps de faire, analyser le vocabulaire. Bon, il y a demeurer, il y a donner aussi. L'insistance sur ce verbe donner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Les titres qui sont donnés au Seigneur, prophète, roi, rabbi, on passe de l'un à l'autre selon les interlocuteurs. Après l'avoir appelé prophète, les Juifs l'appellent simplement rabbi, qui est un titre fort, hein, c'est maître, c'est pas rien. Mais bon, on peut se dire que c'est en dessous du titre de prophète. Bon, il y a un certain nombre de titres christologiques, comme on dit, qui parcourent tout ce chapitre 6 et
verset 24.
Oui, en vérité, amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement. Ah oui, c'était bien dans le chapitre 6. Mais il est passé de la mort à la vie. Eh oui. Ça, c'est un verset difficile.
Énorme, hein.
C'est un verset très difficile à comprendre. Hein.
C'est verset 24.
Oui, verset 24 du chapitre 6. Du chapitre 5, pardon.
Ah,
c'est pas dans le, c'est pas dans le discours du pain de vie.
Ah,
mais c'est dit avant.
5,
et bon, si vous voulez, tout ça, on ne sépare rien dans l'évangile. On lit toujours les choses en résonance. Et puis les versets s'interprètent
aussi
les uns aux autres.
Je ne peux pas séparer le verset 24, ouais. Chapitre 5, du pain de vie.
Oui.
Et c'est d'un optimisme chrétien extraordinaire.
Oui. Oui, c'est difficile. C'est difficile. L'interprétation, là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est... Le jugement, en fait, le jugement, il est lié à la mort, là.
Oui.
Hein, voilà. Celui qui reçoit le Christ comme parole de Dieu, qu'il reçoit en lui, hein, celui qui croit. En celui qui l'a envoyé, s'agissant de Dieu, donc Dieu envoie le Fils, et celui qui croit dans le Fils envoyé de Dieu, il passe de la mort à la vie. Donc,
Sans jugement.
Ouais. Sans jugement. Mais ça rejoint aussi l'idée que, en fait, le jugement, quand on parle de jugement, qu'est-ce que c'est le jugement de Dieu ? C'est, vous savez, on insiste beaucoup dans nos textes liturgiques et. Justement, en filiation avec le versant, comme dit saint Basile, avec le versant écrit de la tradition, c'est-à-dire l'écriture sainte, et le versant oral, tout ce que la tradition orale chrétienne porte au travers des siècles, on insiste beaucoup sur le jugement. Et là, jeudi, mercredi soir dernier, on lisait le grand canon de saint André de Crète, hein, qui est au milieu dans la cinquième semaine du carême, et il y a une insistance là-dessus, hein, sur. Le pécheur qui sera jugé, tout ça, mais ce jugement, en fait, l'homme, je veux dire que Dieu n'est pas un juge à la manière dont on entend la justice parmi les hommes. C'est l'homme qui, par son incrédulité, par son manque de foi et par son péché, prononce le jugement sur lui-même. Il est déjà jugé, dans la mesure où celui qui ne croit pas au Christ qui est envoyé de Dieu, qui est le Verbe de Dieu venu parmi les hommes, si je ne crois pas à celui qui est envoyé, du sein de la Sainte Trinité, eh bien, j'ai prononcé le jugement sur moi-même. C'est moi-même qui, par mon incrédulité, prononcé le jugement.
Qu'il ne passe pas de la mort à la vie.
Je ne passe pas de la mort à la vie, je reste dans la mort, en fait. Je reste dans la mort.
Mais est-ce que ce jugement en question, est-ce que c'est pas le purgatoire ?
Ah non.
Non ?
Non, ça c'est des...
C'est pas ça, le purgatoire ?
Non. Bon, le purgatoire, enfin, la théologie orthodoxe ignore cette notion de purgatoire. parce que c'est... Bon, c'est une notion tardive dans la théologie latine, et
c'est mettre en orbite du spatio-temporel
voilà.
Dans l'éternité. Voilà. C'est donc une erreur fondamentale.
Après la mort, l'âme humaine, bon, qui ne devait... La mort sépare ce que Dieu avait donné, qui n'était pas destiné à être séparé. Hein, puisque l'homme est esprit âme corps.
Oui.
Par la mort, il y a une séparation qui est la résultante du péché, et non pas d'un vouloir divin. C'est le péché de l'homme qui a entraîné ça. Il y a un grand mystère sur ce qui est après la mort, entre la mort, entre ma mort et le jugement et la résurrection générale. Bon, la parole de Dieu, elle est très discrète là-dessus. Ce que nous n'avons pas à connaître dans l'état présent. Ce que nous avons à connaître dans l'état présent, c'est ce qui est nécessaire pour notre salut. On n'a pas... Bon. Et les pères en parlent en termes d'état et non pas en termes spatio-temporels. À la mort, on est saisi dans un état qui fait que selon l'état dans lequel on est trouvé, la lumière divine nous illumine ou elle nous brûle. Le feu nous réchauffe ou il nous brûle. Mais c'est une question d'état, c'est pas une question d'espace-temps, d'un lieu comme chez les catholiques, on parle de purgatoire. Mais ça, c'est totalement ignoré dans la théologie orthodoxe.
Et des indulgences.
Et des indulgences, bien sûr. Bien sûr.
Qui sont directement du spatio-temporel. Oui,
voilà. Puis ça a été un commerce, et peut-être encore maintenant, je ne sais pas. En tout cas, ça a été un commerce extrêmement prospère. Hein.
L'indulgence plénière existe encore, je vais dire.
Oui, et puis bon, voilà, pour construire Saint-Pierre de Rome au XVIe siècle, on demandait des indulgences en voiture, voilà. C'était bon. Est-ce qu'il y a des... Rien par Internet. Bon.
Pardon, je me
souviens. Bah, on a bien. C'est fini là. Ah, merci, Père Jean. Alors, bon, donc la prochaine fois, on fera le bon berger. Oui.